Accès libre avec Luc Fortin.
Ben oui, on est encore là pour une autre semaine. Lundi 10 février, avec mon petit café qui achève. D'ailleurs, café présenté par Be My Eyes aujourd'hui. Trop souvent, j'oublie d'utiliser cette application-là. Pour ceux qui ignorent un peu le fonctionnement, tu cliques et dès qu'il y a un bénévole qui répond, tu peux lui demander une question qui, disons, compense ton manque de vision. Dans ce cas, dans mon cas, c'était « Est-ce que ma cafetière est allumée ou éteinte? » Et j'avais beau l'allumer, l'éteindre, ça... Finalement, la madame m'a dit « Ben, t'es allumée. » Mais ça m'a pris comme 20 minutes à dire « Ah, oh, be my eyes! » Parce que j'étais pogné avec mon café. Là. Et il sera question quand même de plein de choses aujourd'hui. Une pénalité des retraitées québécoises discriminatoire, selon Mémo Québec. On va parler d'une application, un genre de Airbnb pour personnes à limitation fonctionnelle. Et dans quelques minutes, un bras électronique. Salut, c'est La Liberté.
Allô?
Comment allez-vous?
Ben, ça va bien. Cette semaine, je suis là. Notre invité au bout du fil est déjà là. Je ne suis pas trop dépassé par les événements.
Non, mais tu as vu quand même que je t'ai parlé après la minute pour pas me faire prendre au cas où.
Oui.
Parce que, Non, mais il y a ça. Puis aussi, c'est parce que j'étais en régie avec toi jusqu'à à peu près 8 secondes avant et tu n'avais pas encore commencé à composer. Alors, je me dis, ça se peut que... Il m'a trouvé tellement intéressant qu'il n'a pas nécessairement fait la démarche pour causer avec Vincent Pelletier, qui est étudiant en génie robotique à l'Université de Sherbrooke. Vincent, ce sera pas long, je veux juste savoir comment JSL va. Donc, une semaine agréable?
oui, sous la neige, comme, comme plusieurs millions de Québécois, oui.
Toi qui reste dans le 4-5-0.
Oui.
Qu'est-ce que ça a l'air chez vous, Vincent Pelletier, au niveau neige?
C'est pas bien, le gros est passé, je te dirais.
OK, parce qu'ici, là, on a un autre 15 aujourd'hui.
Ah ouais?
Ouais. Puis, on y va un tour de roue à la fois.
Ouais, toujours.
On se parle parce que, entre autres, vous n'êtes pas le seul, il y a des étudiants en génie robotique qui aident un homme à améliorer son bras mécanique. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'un bras mécanique. Il y a Jaco qui, justement, émane de l'Estrie et j'avais envie de savoir un peu la différence entre ce que vous proposez et ce que Jaco offre déjà.
Bien, dans le fond, nous, c'est pas vraiment un produit qu'on va vendre, là. C'est plus vraiment une aide. Je connais pas exactement Jaco, mais nous, dans notre cas, c'est simplement de venir en aide à M. François Pente, qui s'appelle.
Mm-hmm.
Qui est en fait quelqu'un qui est atteint de dystrophie musculaire.
Okay.
Donc, il a toute sa tête, mais il n'y a pas vraiment de mobilité.
Ouais.
En fait, il n'y en a pas du tout.
À l'inverse de bien des gens que je connais qui sont très mobiles, mais qui n'ont pas toute leur tête.
Oui, exact.
Mais justement, parce que, bon, à défaut de connaître, si je vous dis quand même qu'il y a déjà un bras mécanique électronique qui existe, est-ce que ça... On se dit, bon, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là, parce que pourquoi réinventer la roue?
Oui. Ben, pourquoi réinventer la roue, dans le fond, c'est que lui, il est dans un CHSLD.
Ouais.
Et les CHSLD ne permettent pas nécessairement d'avoir des bras faits par l'utilisateur. Donc, lui, son bras, c'est lui qui l'a conçu.
OK.
Il l'a comme monté à l'aide de certains membres de sa famille et du personnel à Argyle. Mais un bras coopératif, ça coûte excessivement cher.
Oui, oui, oui.
Donc, le sien, pour éviter de débourser 10 000 et plus, il a acheté des pièces sur RoboShop, il l'a conçu, mais c'est vraiment pas rudimentaire, mais il manque des implémentations que nous, on va venir... interfacer avec son bras actuel.
Et comment c'est pas une prothèse, là, c'est vraiment un outil extérieur à son corps.
Oui, exact.
Parfait, OK. Je voulais juste préciser. Maintenant, comment le contact s'est fait entre M. Plante et vous?
C'était par l'entremise, tout d'abord, de notre professeur, qui, lui, s'était fait contacter par François.
OK.
Donc, notre professeur s'est fait contacter par François. Il a comme étalé le projet à la cohorte. Et finalement, ben, nous, on s'est dit que c'est un beau projet, c'est un projet philanthropique. Donc, on a pris le projet, on est allé le voir, on a fait des démarches pour ben, un peu pour savoir c'est requis client, un peu. C'est
Ouais, bien
carrément
sûr,
ça.
bien sûr.
C'est ça. Là, on est parti sur le développement depuis quelques semaines.
Est-ce que ça se veut un travail de session en même temps?
Oui, c'est un travail de session, mais le travail de session finira pas dans une armoire, mettons.
Et si la session se termine mais que le bras n'est pas complété?
Ben, c'est tout lié de droit, donc tout ce qu'on a fait, que ce soit terminé ou pas, va être à lui.
OK.
Puis en même temps, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on fait de. On va intégrer sur son bras. On va pas comme prendre son bras, l'amener à l'école, continuer à travailler là-dessus. On va carrément faire une intégration continue, dans le fond. Fait que lui, il va pouvoir continuer à utiliser son bras sans que, tu sais, sans arrêt. Pendant que nous autres, on conçoit les features qu'on veut rajouter dessus.
Mais quelles sont les aptitudes de François Plante au départ pour qu'il... Parce que c'est une chose, bon, comme moi je suis aveugle, si je voulais, disons, avoir un œil qui fonctionne, c'est une chose de le vouloir, mais de là être capable de patenter quelque chose et ensuite de juste demander à des spécialistes disons, de fine-tuner, c'est autre chose. Parce que le gars, c'est un ingénieur, c'est un...
Non, pas du tout. C'est ça qui est impressionnant. Il est autodidacte.
Oh, wow. OK.
Ouais.
OK.
Donc, il se débrouille vraiment bien. C'est assez impressionnant. Quand on est allé voir la première fois nos attentes étaient vraiment pas là, honnêtement.
Ouais.
Quand on est arrivé, on a été surprenamment ben content.
Ouais,
C'était
ouais.
un beau bras qu'il a fait. Puis ouais, c'est bien conçu, bien construit. C'est juste certaines choses que, tu sais, vu que lui a des mouvements un peu limités, de faire tout ce qui est CAD ou de la modélisation 3D, c'est vraiment comme difficile. Donc, un de ses requis, justement, c'est de couvrir le bras, parce qu'en ce moment, les engrenages sont comme à vif, si je peux dire.
Ouais. Au
Donc,
grand
lui,
jour,
ouais, c'est
là.
ça.
Ouais.
Donc, lui, le bras lui sert à servir à tenir des serviettes pour venir comme s'essuyer ou pour boire carrément.
Ouais.
Parce qu'il peut pas boire comme dans un verre d'eau comme vous et moi. Donc, des fois, la serviette, elle vient se prendre dans les engrenages. Tu sais, c'est des petits, pas des petits troubles, mais c'est des petits requis qui ont l'air pas si pire que ça, mais qu'en bout de ligne, qui peuvent venir ben, finir sa journée assez vite, mettons.
Est-ce que ça prend des
Difficile
pièces
de.
particulières? Est-ce que, bon, il faut, je ne sais pas, me regarder à l'extérieur du pays pour dire, bon, si je veux faire venir tel type de boulins ou de parce qu'ils sont plus petits ou...
Oui, ben c'est ça, c'est ce qui va faire partie de notre projet, dans le fond,
OK.
d'aller voir ben, les meilleures pièces qu'on pourrait aller chercher. Mais je te dirais, en ce moment, le bras, il est quand même, c'est de l'aluminium assez robuste. Côté structure, c'est assez impressionnant, honnêtement, là.
Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? Bon, je reviens à Jaco parce que c'est celui-là que je connais. Je sais qu'il est capable de prendre un œuf sans le briser, parce que c'est ça, tu sais, faut pas serrer trop fort. Donc, il y a des détails comme ça. Bon, on parle du verre d'eau, on parle d'appuyer pour un ascenseur. Bon, qu'est-ce que le bras de François Plante est capable de faire jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on souhaite qu'il soit capable de faire éventuellement?
En ce moment, il fait du positionnement rudimentaire. Donc, il est capable de monter, il est capable de se donner quelques positions dans sa chambre, justement s'il veut regarder la télé ou s'il veut comme lire sur son ordinateur. C'est à peu près ça qu'il fait. Sinon, il est aussi capable de prendre. Il y a une pince au bout de son bras qui est capable d'aller prendre son humecteur, le tremper dans un verre d'eau, tasser la glace dans le verre d'eau. Des fonctions de base qui lui sauve du temps. Nous, ce qu'on veut implémenter par-dessus ça, c'est vraiment une espèce d'enrobage plus de l'interfaçage. Donc, l'interface en ce moment, c'est pas que c'est assez lourd, mais c'est sur l'ordinateur. Il doit utiliser sa main avec la souris, c'est pas facile. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est non seulement d'améliorer l'interface qu'il y a sur son ordinateur, mais aussi de lui en faire une sur son cellulaire. Donc, le cellulaire qui est beaucoup plus facile pour lui d'utiliser.
Donc, de créer une application.
Oui, ça, okay. C'est un des requis.
Okay.
Sinon, c'est vraiment de lui permettre d'atteindre des positions plus rapidement. En ce moment, je pense que ça lui prend 3 minutes passer du point zéro en bas et de monter d'un mètre. C'est vraiment long.
Ouais.
Fait que quand il veut boire de l'eau, ben c'est une fois à chaque 3 minutes.
Non, c'est ça. Ouais.
Fait que je dirais que c'est de l'amélioration de performance que nous autres, on vient chercher à faire.
La communication avec lui se fait par courriel, si j'ai bien compris?
Oui.
Parce que, bon, François a des difficultés d'élocution. Vous allez quoi? Vous allez aux semaines, aux 2 semaines? Comment? Au niveau du suivi du travail et en même temps... Parce qu'il y a le travail de session qui demande supervision et tout, mais il y a aussi, on veut faire un bon job, là.
Ouais, exact.
Alors, comment le suivi se fait?
Honnêtement, on y va vraiment pas au feeling, mais quand ça va bien, on le sait. On y envoie des courriels, il nous répond, il nous dit oui, c'est parfait. Si on voit vraiment qu'il manque quelque chose d'important ou qu'on n'est vraiment pas sûr sur ses requis, là, c'est là qu'on va aller le voir. Donc, si, par exemple, il nous donne une information, il y a un autre de ses requis, justement, qui c'est ouvrir ses tiroirs dans sa chambre de façon automatique.
Mm-hmm.
Puis qu'on n'est pas sûr de quelle manière, est-ce qu'on a le droit de percer les tiroirs, ou est-ce qu'on peut pas? C'est des choses que il peut répondre par courriel, mais des fois, il y a des ambiguïtés, puis on veut vraiment pas prendre de chance à ce niveau-là. Donc, on va carrément aller le rencontrer, prendre des mesures avec lui, poser des questions plus en profondeur.
Mais est-ce que votre désir, parce que bon, vous parliez de percer les tiroirs, puis moi je me dis, ben non, là, parce que peut-être que lui, chez lui, ça lui dérange pas parce que ce sont ses tiroirs, mais ce que l'on souhaite, c'est idéalement organiser un prototype qui va fonctionner à moindre coût avec plein de gens, et mon proprio voudrait pas que je perce les tiroirs. Par contre, mon proprio, il va être bien content si mon bras mécanique puisse utiliser la poignée du tiroir. Donc, est-ce que votre désir est d'en faire un outil plus universel ou vraiment spécifique à François Plante?
Ça, je dirais que ça reviendrait au choix de François Plante. Nous, on est vraiment allé avec ses requis. Donc, pour ce qui était du tiroir, par exemple, on ne va pas utiliser le bras pour l'ouvrir simplement parce qu'on sait que M. Plante a besoin du bras pour tenir des serviettes. Okay. Donc, il ne peut pas vraiment tenir la serviette en même temps d'ouvrir le tiroir.
Oui. À moins d'avoir deux bras.
Oui, à moins d'avoir
deux bras. Oui, je comprends. Oui, puis c'est faut y penser, effectivement.
C'est
là où ma réflexion était limitée. Vous n'avez jusqu'à quoi, fin avril?
Oui, fin avril.
Fin avril,
c'est le deadline. Mais en même temps, la beauté de ça, c'est que le projet est open source. Donc, si la cour d'après veut continuer, si M. Plante veut d'autres requis, il peut carrément recontacter la cour après nous. Puis recommencer un cycle un cycle de conception.
Oui, puis en même temps, bon, ça se veut, j'imagine, un projet fédérateur. C'est un bel outil de sensibilisation pour vous qui n'êtes peut-être pas familier avec le milieu du handicap. Donc, c'est assez gagnant-gagnant. C'est juste que j'entends que M. Plante sera obligé d'être patient. Ça, c'est sûr. Vincent Pelletier, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Il est étudiant en génie robotique à l'Université de Sherbrooke.
Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sud des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Huileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc, foulard. Encore, 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 hein. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudit moi malfaisant. Je t'aime, hein. De temps en temps. Février compte, Diderot, février Valentine, faut qu'on se garde au chaud. Février dans le noir, février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu saoul. Février dans le bouchon ou dans le clos d'un canton. Février dépression, février toucher le fond. Février puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant, maudit mois malfaisant. Je t'aime, mais pas tout le temps. C'est la fête, février des heures bêtes, février débarrasse, mets donc ça sa glace. Si maudit moi qui en finit pas, je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime. Mais plus maintenant.
Mais voyons, Vincent, moi j'aime l'hiver, j'aime. Bon, on a eu 35 vendredi, on a 15 ce matin, on annonce 15 jeudi, puis c'est correct. Ça dure le temps que ça dure. Faut dire que je sais que je fais partie des gens qui sont un petit peu à l'envers du décor parce que je suis pas très, très été humide. Monsieur La Liberté, très, très, très bonne nouvelle que j'ai par hasard, que je suis en mesure de partager avec l'auditoire d'Accès Libre. Tout.tv a des émissions avec vidéo description. C'est vraiment, j'en revenais pas.
Là, on parle dans l'offre de base
oui,
gratuite.
Oui, oui. J'ai tapé Cérébrum et là, j'ai eu de la difficulté et je farfouillais. Puis bon, j'essayais de reculer de 15 secondes et tout et tout. Puis à un moment donné, c'était comme prix. Et là, j'ai tapé sur options. Alors, je suis allé dans options, il y avait sous-titres. Activé, désactivé, ils étaient désactivés. Il y avait vidéo description, désactivé. Bon, j'ai déjà vu ça ailleurs. Je l'ai activé, mais dans ma tête, c'était comme pour un usage futur. Ben non, la madame a commencé à parler.
Coup de théâtre.
Ben, tout à fait. Et là, j'ai vu que cinquième rang, c'était la même chose. Bon, il faut activer la vidéo description à chaque émission. Pas à chaque épisode, mais à chaque émission. Donc, c'est pas comme Netflix où une fois qu'on... On active cette fonction-là, c'est toujours activé. Mais quand même Radio-Canada ne nous l'a pas dit. Alors, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Allez, ne vous en privez pas, allez voir. Vous allez peut-être, comme moi, tomber sur une émission qui arrive avec le support de vidéo description, puisque c'est comme ça, nous, qu'on appelle ça ici, de notre côté du Grand Étang, alors qu'en France... Vous, Guillaume Bouleton, vous appelez ça l'audio-description.
C'est exactement ça.
Oui, oui.
Bonjour.
Mais c'est probablement nous qui allons suivre, parce que les Anglais également appellent ça audio-description, donc j'imagine que c'est nous qui allons plier les chines. On a parlé d'un bras mécanique, là on parle d'une application, on est dans le prototype et on est dans l'aide aux personnes handicapées aujourd'hui. Vous êtes directeur général de Toolib, T-O-O-L-I-B, qui est une application que j'ai lu qu'on comparait un petit peu à Airbnb, mais ça va au-delà du logement. Là, on parle de transport, on parle de différents moyens qu'on peut partager l'un avec l'autre. Ça s'adresse à quelle clientèle, Toolib?
Alors, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin d'adaptation pour vivre leur quotidien et qui souhaitent pouvoir se déplacer en ayant toujours cette bulle de confort qu'ils créent chez eux, en ayant le matériel nécessaire, le véhicule nécessaire et toutes les adaptations dans leur logement. Et l'objectif, c'est de dire, ben voilà, si vous voulez partir en voyage, voir votre famille ou autre, on va vous aider à déplacer cette bulle de confort ailleurs et à vous trouver le matériel dont vous avez besoin sur place et tout ce qui peut être adapté, vous aider en fait.
Maintenant, ça oblige quelqu'un qui a un logement accessible à s'inscrire pour vous dire que son logement est accessible. Vous n'allez pas le trouver comme ça si la personne ne le dit pas.
Alors, c'est ça. Alors, si elle ne le dit pas, nous, on va essayer de trouver. Justement, quand il y a des logements qui sont accessibles, on en trouve sur des sites d'annonces qui ne sont pas forcément spécialisés. Donc, on fait, bien sûr, la démarche de les appeler et de leur dire, voilà, est-ce que vous savez qu'il y a des services spécialisés qui permettent de centraliser un peu les choses pour faciliter les choses aux personnes qui en ont besoin. Mais on a également des gens qui viennent s'inscrire aujourd'hui de par leur propre chef et qui prennent la décision de venir s'inscrire sur Tulip parce qu'ils croient au service, quoi.
Mais donc, il y a non seulement une application, mais il y a aussi un travail de recherche qui est fait pour l'abonné.
Ah oui, on va essayer de trouver des logements, de trouver des gens qui ont du matériel, de trouver des véhicules adaptés, de recherche et aussi de partenariat. Par exemple, il y a des structures qui proposent des véhicules adaptés qui existent déjà et le but, c'est pas de venir faire une concurrence, c'est vraiment de centraliser pour proposer une solution centrale et de dire, ben voilà, on va s'interfacer avec, je sais pas, par exemple, on est en partenariat avec la Fédération Handisport et de dire, ben on va juste référencer votre matériel pour que des personnes qui viendraient dans votre ville sachent qu'il y a un fauteuil de basket, par exemple, adapté et qu'ils puissent l'utiliser, quoi.
Et bien que le projet émane de la France, j'ai lu que ça se voulait universel.
Oui. L'objectif, c'est de pouvoir derrière partir. Ben, le besoin est universel. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à tous les besoins et que les gens puissent voyager d'un pays à l'autre. Donc, déjà, il y a le fait de répondre à des besoins qui pourraient être au Québec, par exemple.
Oui.
Mais aussi, il y a beaucoup de Français qui aimeraient pouvoir visiter le Québec et qui ne peuvent pas aujourd'hui par manque de solutions ou de facilité de trouver des solutions. Donc c'est là que nous on se dit, ben, il va falloir qu'on permette aux gens de voyager comme nous on le fait en tant que valide, quoi.
Et si la France n'est ni au point A ou au point B, exemple, Luc veut partir de Montréal pour aller faire un séjour à New York, est-ce que vous travaillez en fonction de Luc aussi?
Alors oui, évidemment, pas aujourd'hui. Puisque,
non, ok.
Oui, voilà, mais à terme, bien sûr, une personne du Canada qui voudra aller en Espagne, bien sûr, l'objectif c'est pas que ça passe par la France, c'est vraiment de répondre à un besoin. Donc évidemment, oui.
Bon, j'aurais dû faire mes devoirs. Malheureusement, semble-t-il que j'ai pas été très, très professionnel. Votre application est-elle accessible? J'entends VoiceOver ou...
Alors, elle est accessible. Là, on a une application. Donc, justement, juste avant, on parlait de Be My Eyes, que j'utilise d'ailleurs. Et j'aime beaucoup cette application. Je trouve que c'est très utile. Mais il y a très peu d'appels. C'est un peu dommage. Je pense que les gens n'ont pas le réflexe.
Peut-être que vous êtes... Oui. Il y a beaucoup plus de bénévoles également.
J'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bénévoles et du coup, j'ai dû avoir en 6 mois, j'ai dû avoir 3 appels.
Ah oui. Hein.
Mais c'est déjà ça.
Mais
c'est
merci d'avoir répondu.
Je trouve ça génial. L'idée est géniale.
Ouais.
Donc oui, l'application, elle est disponible là aujourd'hui sur tulip.fr, on peut y aller. Aujourd'hui, on est justement en phase de recrutement de logements. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de mettre leur logement puisqu'on ne veut pas que des personnes arrivent sur une application où il n'y a pas de solution, ce serait déceptif. Donc aujourd'hui, on dit aux gens, pendant encore 3 semaines à 1 mois, mettez vos logements. Donc on est en train de sourcer les logements, d'en mettre de plus en plus. Mais vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller sur l'application, référencer les logements. Et d'ici 3 semaines, on va ouvrir pour toutes les personnes qui chercheront des logements. Sur la France, dans un premier temps, puisqu'on n'a pas, enfin, on est une petite boîte. Et pour l'instant, on essaie vraiment de tester le modèle économique, de répondre aux besoins sur la France, de connaître le marché pour derrière commencer à grandir un petit peu, peut-être d'ici 6 mois, un an.
Mmh.
Puis, sur d'autres pays, quoi.
Je ne sais pas si c'est vous qui allez gagner un petit peu cette course-là, mais moi, j'ai hâte qu'il y ait une plateforme universelle parce qu'ici, il y a On roule au Québec qui offre services et lieux accessibles. Il y a une application du genre, je pense que c'est dans le sud-ouest également. Donc, il y a des petites plateformes régionales qui font la même chose. Je trouve qu'il y a du dédoublement, il y a du... Alors que... Et là, à un moment donné, on oublie d'aller vérifier à gauche. Et peut-être que moi, j'inscris mon logement dans une, j'oublie de l'inscrire dans l'autre, ce qui fait que... Alors, c'est pas idéal, mais vous allez faire le tri et regarder tous ces sites web-là qui existent déjà et...
Mais en fait, c'est de là que vient l'idée.
C'est fabuleux.
J'ai une personne de mon entourage proche qui est en situation de handicap, qui est en fauteuil roulant, avec qui on a voulu voyager et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille chercher un logement sur un site. Et puis des fois, ça ne répondait pas, donc on allait sur un autre site. Des fois, les mairies des villes ou des villages qui proposent des logements, etc. Des personnes qui les proposent eux-mêmes sur le web dans un petit site, etc. Un petit site web. Derrière, on ne trouvait pas de véhicule, on ne trouvait pas de matériel pour aller à Porto. Porto qui est très vallonné au Portugal, on ne trouvait pas d'aide à la motricité pour elle, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aller sur 40 sites en même temps. On s'est dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas un endroit où on puisse avoir ces 3 besoins. Parce qu'une fois qu'on répond au matériel, au véhicule et au logement, on répond déjà à une grosse partie des besoins et les services qui arriveront plus tard, bien entendu.
Ouais.
Et en fait, c'est cet objectif-là, c'est de se dire, c'est regrouper un peu toutes ces compétences, toutes ces choses qui ont été faites et proposer une plateforme centrale et ensuite ben, se connecter avec... On a un équivalent de la plateforme dont vous parlez au Québec, qui s'appelle jacquesed.com,
okay.
qui eux vont par exemple référencer les restaurants accessibles, les musées accessibles, etc. Et le but, ce serait de dire, ben, on va se connecter avec eux pour que tout soit centralisé à un même endroit. Ça.
Non, parce que vous me faites penser qu'il y a aussi l'outil de Kéroul qui est côté touristique ici en plus. Mm-hmm. Bon, comment monétiser, comment rentabiliser le projet?
Alors, nous, l'inscription est totalement gratuite, déposer votre logement, c'est gratuit, etc. Comment ça marche? C'est que quand, par exemple, vous avez un logement, vous me le louez à moi, si vous le mettez à 100 euros, je vais par exemple le voir apparaître à 110 euros. Pourquoi? Parce que donc on travaille avec des ergothérapeutes qui vont valider chaque logement, chaque matériel, etc., qu'on rémunère. On a également tous les logements qui sont assurés sur la plateforme. Les logements, les matériels et les véhicules sont tous assurés dès que vous les louez. Donc il y a une petite partie qui va partir aux ergothérapeutes, une petite partie à l'assurance, il y a une petite partie de frais bancaires, une petite partie pour la plateforme, pour qu'on puisse payer les développeurs, etc. Donc en fait, c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour moi, j'aurai pas de mauvaise surprise, c'est simplement que je vais voir le logement un petit peu plus cher, et lors de la transaction, il y aura un micro-prélèvement qui sera fait.
Un peu comme lorsqu'on vend une maison, finalement, on essaie d'augmenter un petit peu le prix pour offrir au courtier son dû.
Voilà, c'est un peu ça.
Ouais,
on réinvente pas la roue. Hein.
C'est correct.
C'est le système de micro-transactions, c'est plutôt ça. Et au moins, il n'y a pas de frein à l'inscription. Il n'y a pas à se dire, je vais m'inscrire et je vais peut-être rien louer.
Et quand vous parlez d'assurance, est-ce que je comprends que, supposons, il y a des bris dans le logement que je vous ai loué, il serait remboursé par l'assurance?
C'est ça. On a une assurance qui a vraiment cru au projet, qui nous a aidés dès le départ. Et en fait, si vous abîmez quelque chose dans le logement, c'est compris dans l'assurance. Si vous abîmez la voiture, c'est compris dans l'assurance. Donc, on travaille, oui, vraiment avec une assurance qui assure les transactions.
Ben, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. On va garder un œil ouvert et on va suivre la progression de Toolib. J'ai dit T-O-O-L-I-B. Je l'ai écrit à deux. OK, parce que je l'ai comme écrit de deux façons sur ma petite feuille. Donc, ben, Guillaume, lâchez pas et belle initiative. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous. Merci, Luc. Très bonne journée et puis merci pour votre appel.
Guillaume Boulaton, donc, est président, directeur général de Toolib. Allez voir ça sur l'application de votre choix, là, que ce soit Android ou iOS. Monsieur La Liberté nous dit qu'il nous reste 10 secondes avant la pause et de l'autre côté, dit Christiane qui vient faire sa petite revue de presse.
Écoutez, accès libre.
Christiane Campagna.
Luc Fortin.
Est-ce que je t'avais dit que il y avait des programmes avec vidéo description sur tout.tv?
Non, c'est quand tu ne m'avais pas dit ça.
C'est quand même fabuleux. J'ai découvert ça hier. Alors, je ne vous répéterai pas comment y accéder, les gens. Mais si jamais vous avez manqué le moment où je l'ai dit à 12h17, ben, abonnez-vous. Et retournez à la 17e minute si vous êtes handicapé visuel puis que vous voulez avoir de la vidéo description sur tout.tv. Elle n'est pas encore complètement partout, mais il y a du choix. Bon, il y a... c'est parce que je pensais à ça en même temps, parce que dans le petit onglet options, il y avait vidéo description et il y avait sous-titrage. Et ça me fait penser à ça parce que il est question de sous-titrage. Il y a une dame qui a travaillé presque pour rien, là.
En fait, c'est pas du sous-titrage, c'est...
Ah oui, c'est du ASL.
C'est ça.
Oui.
En fait, même que cet artiste-là, dont j'ai malheureusement pas noté le nom, c'est vraiment... Je suis allée voir ce qu'elle faisait. C'est plus que juste traduire les paroles de la chanson en ASL. C'est une interprétation qu'elle fait.
Donc, elle dansait avec Shakira puis Jennifer?
Elle dansait... plutôt de son côté, mais disons que c'est une version très, très expressive qui suit la musique un peu, en tout cas, très, très expressive et artistique, carrément.
Parce qu'il faut préciser que c'est durant la mi-temps du Super Bowl.
Ben voilà. Elle a écrit elle-même un texte d'opinion paru dans le New York Times et elle disait qu'elle était en colère parce qu'on n'a pas pu voir sa performance dans les retransmissions du match par la chaîne américaine Fox. Et même en ligne... où on devait voir sa performance à titre de bonus. Quand tu ne veux pas mettre quelque chose à l'écran de la télé, ouais, on dit que c'est un bonus en ligne. Alors, c'est juste qu'on l'a relégué en ligne. mais à tout bout de champ, la caméra cessait de filmer la dame pour montrer des gros plans des joueurs au milieu de chaque chanson. Et au fond, là, interrompre une prestation en langue des signes pour montrer autre chose à la télé, là. C'est comme ça qu'on faisait jouer une chanson à la radio et qu'on... et qu'on l'interrompait. C'est manque un bout, ouais, là, carrément. C'est ce qu'on réalise pas quand on fait ça. Elle dit qu'elle avait déjà hésité à accepter de se produire au Super Bowl en soutien à Colin Kaepernick parce que les personnes sourdes, on en avait parlé déjà à Tradosphère, à Axelie, quel drôle de lapsus.
Non, mais c'est parce que madame occupée.
C'est qui... le quinteux tremblé.
Oh, c'est ça, ouais, qui s'en vient éventuellement.
C'est ça.
Ouais.
Tout à fait. Parce qu'ils ont aussi des problèmes avec les policiers. Mais bon, elle trouvait que c'était important que sa présence pouvait sensibiliser aux barrières systémiques et aux préjugés en lien avec la surdité. Elle accepte l'invitation et puis là, tout d'un coup, on la voit à moitié sur Internet et pas du tout à l'écran à la télé. Cette décision-là de Fox News a été critiquée par des stars de plusieurs horizons, notamment par l'actrice sourde Marley Matlin et par le mannequin Niall DiMarco, dont on a déjà parlé ici. Matlin, elle a tweeté à tous les réseaux, « La prochaine fois qu'au Super Bowl, quelqu'un interprète l'hymne ou America the Beautiful en langue des signes, leur prestation devrait être diffusée entièrement, pas quelques secondes. Mettez en valeur la beauté de la SL dans une mortaise, un écran partagé ou à côté du chanteur. Il est temps. »
Mais c'est parce qu'il y a, oui, mettez en valeur la beauté de l'ASL, mais comme tu l'as précisé, ça va au-delà de la beauté et le « oh wow », tu sais, c'est pour sensibiliser les gens, là. Je veux dire, c'est leur façon de comprendre ce qui est dit, et c'est vraiment de ne pas prendre le temps de réfléchir lorsque le réalisateur décide qu'on ne montre qu'une performance visuelle, comme si c'était une chorégraphie plutôt que... on part de loin, là. On part vraiment de loin.
Oui, tout à fait.
Ça me vexe.
Maintenant, ça va à Toronto, où un ancien employé d'Apple poursuit son ancien employeur pour discrimination. L'homme de 33 ans les poursuit pour perte de salaire et dommages-intérêts parce que Apple a refusé, selon sa poursuite, à plusieurs reprises de travailler avec lui à un vrai plan d'adaptation individuelle. Il lui a plutôt fourni des solutions fragmentaires. Robert Shaw, qu'il s'appelle, il se déplace en fauteuil roulant. Il faisait partie de l'équipe de support technique Genius. Et à la fin de 2007, il a été transféré dans un nouveau magasin. Il a demandé à ce moment-là qu'il puisse travailler pour aider le public à une table qui soit à 30 pouces du sol,
ouais,
qui est environ 5 pouces de plus que ce qu'il y avait normalement dans les magasins Apple. On lui a dit que ça allait se faire. On lui a assuré aussi qu'il y aurait des portes automatiques à son arrivée. Mais en fait, à la place, la direction a décidé dans un premier temps d'expérimenter des petits tableaux, des petits plateaux qui se fixaient à son fauteuil roulant sur lesquels il ne pouvait pas mettre un ordinateur qui n'était pas solide, qui n'était pas pratique pour travailler. La porte automatique s'est mise à fonctionner mal très rapidement et ça a pris des mois avant qu'on décide de la remplacer. Ce qui fait que le plus souvent, il était confiné à travailler sur des réparations à l'arrière du magasin. Il ne pouvait plus interagir avec les clients. Finalement, il y a eu des nouvelles tables, mais elles n'étaient pas exactement à la bonne hauteur. Et pour lui, la hauteur de la table, c'est important pour des questions de mouvements répétitifs qui pouvaient être néfastes à la longue.
Et la raison pourquoi on parle de tout ça, parce que bon, c'est pas le seul cas, évidemment, mais c'est que Apple se targue d'être probablement l'une des compagnies de high-tech la plus accessible ou qui travaille le mieux à rendre ses produits accessibles. Ce qui a été vrai pour une partie, disons, pour quelques années, mais là, on se rend compte que, exemple, et j'entends ça, Christiane, dans plusieurs balados spécialisés de technologies adaptées, lorsqu'il y a un bug, on ne le corrige pas. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive avec une nouvelle fonction, on va la rendre accessible, mais si on se rend compte qu'il y a un bug, on passe outre. Et semble-t-il que ce n'est pas juste pour ce qui est de l'accessibilité, même pour les voyants. Je ne sais pas, Jean-Sébastien, si tu corrobores, toi qui as un iPhone, mais semble-t-il qu'on n'est pas vite à corriger des bugs, on est plus rapide à ajouter des fonctions. Et vraiment, les gens, là, même 13.4 est en version bêta. Et encore une fois, les spécialistes s'arrachent les cheveux avec 13.4. Donc, le iOS 13, là, c'est comme le nouveau Coke. Ça a presque le même impact que le nouveau Coke dans les années 80. Jean-Sébastien est trop jeune pour avoir connu cette saga-là. Christiane, as-tu connu la saga du nouveau Coke?
Un petit peu, oui. Okay. J'étais adolescente, je pense.
OK, OK. Ça a été affreux, ça, comme choix. Est-ce que je vous mets dehors? Vous avez...
Ben non, c'est tout, mais en fait, ça a fait dire à un avocat de Toronto qui est spécialisé dans le droit du travail, qui s'appelle Michael Cohen et qui n'a rien à voir avec celui qui travaillait pour Trump, que c'est une histoire qui lui est familière, qu'il y a eu un dossier dans le New York Times disant que les compagnies technologiques sont particulièrement peu accueillantes pour les travailleurs en situation de handicap et que même chez Amazon, plusieurs personnes ont reçu des évaluations de faible performance ou se sont vues mettre en place des plans d'amélioration de performance après des cancers ou des chirurgies importantes. Et ce sont des plans qui sont souvent des précurseurs à des licenciements.
Mauvais moment pour prendre ma gorgée de café. Ben merci, Christiane. Sarah Limoges, salut!
Bonjour!
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Ça fait combien de temps que tu es à Mémo Québec, Sarah?
3 ans déjà.
Okay, fait que je devrais être à jour. Est-ce qu'on s'est parlé depuis que tu as quitté Altergo? Parce que j'ai été surpris de voir que tu étais rendue à Mémo.
Je crois que oui. Bon. Oui, bien sûr. Peut-être okay. Qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de mon travail comme tel, mais...
Oui. Bon, là, il va falloir que tu m'aides parce que je suis vraiment pas bon en fiscalité, en économie, et pourtant, il est question d'une pénalité de retraite au Québec qui serait discriminatoire là, pour des personnes qui ne peuvent travailler en raison d'un handicap.
Oui.
Peux-tu d'abord me dire les grandes lignes de ce problème-là?
Oui, en fait. Bon, pour les personnes qui travaillent, OK, il y a une partie de notre salaire qui s'en va dans les déductions. Une d'entre elles, c'est une cotisation au régime des rentes du Québec. Donc, ce qui nous donne accès à 65 ans à des rentes de retraite.
Ouais.
Bon, une personne, en fait, là, qui tombe malade ou qui a plus la capacité de travailler en raison de sa santé et qui a suffisamment cotisé au régime des rentes du Québec peut recevoir la rente d'invalidité. Cette rente d'invalidité-là, c'est une mesure instaurée par Retraite du Québec qui permet quand même à une personne qui a cotisé d'avoir un coussin là, financier jusqu'à l'âge de la retraite, qui est 65 ans. Toutefois, en 1997, le gouvernement en place y a instauré une modification qui fait en sorte que les personnes qui ont la rente d'invalidité à 65 ans vont être pénalisées. Pourquoi? Parce qu'une personne qui prend sa retraite de façon libre et éclairée à 60 ans, par
donc,
exemple.
Retraite préventive ou en tout
oui,
cas,
oui. Retraite préventive. Va la prendre sachant que à 65 ans, il va être pénalisé.
Oui.
Donc, il peut tout de suite toucher sa rente de retraite, mais à 65 ans, elle va être diminuée.
Mais c'est un choix.
Ça, c'est un choix.
Oui, c'est ça. OK,
mais
je comprends.
Le gouvernement en place en 97 a passé, en fait, un peu sur l'argument de pour être juste envers tout le monde, a décidé d'appliquer cette même pénalité-là aux personnes qui reçoivent la rente d'invalidité. Donc, si tu es invalide à 48 ans à cause de ta santé, tu reçois la rente d'invalidité. Assurément que tu vas la toucher entre 60 et 65 ans, ta rente d'invalidité. Et à 65 ans, ben tu pourras être pénalisé d'environ 36 %.
Et ça a été déterminé il y a 2 ans.
Cette pénalité-là?
Oui.
Non, en 1997.
En 1997.
Ça date
okay.
déjà,
pas 2017. OK. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en parle maintenant, malgré qu'il n'y a jamais de mauvais temps pour parler d'une hérésie, là? Mais pourquoi ça refait surface?
En fait, c'est drôle que ça fasse surface maintenant. Mémo Québec, en fait, travaille sur cette pénalité-là, si on peut dire, depuis au moins là, 2011.
OK? Okay.
Parce qu'il y a certains de nos membres qui avaient la rente d'invalidité. Ils ont vieilli. Ils ont atteint 65 ans et ils ont su qu'ils étaient pénalisés d'un bon montant. Donc, on a commencé à être appelés et nous, de notre côté, on a commencé à travailler, à rentrer en communication avec l'OPHQ, le protecteur du citoyen, la Commission des droits de la personne, les élus en place à l'époque Et c'est un dossier qui est très complexe et jusqu'à tout récemment, on n'avait pas une oreille tant attentive là, de la part de tout le monde pour faire avancer les choses. En 2017, la Commission des droits de la personne a finalement sorti un avis juridique qui dit « On s'est penché sur cet article de loi-là, qui est l'article 120.2 de la loi des régies des rentes du Québec. Et elle est discriminatoire en fonction du handicap. » Alors là, ça a commencé à faire un peu plus du bouche à oreille depuis cet avis-là, ce que nous, on a été très, très contents. Et un jour, il y a une journaliste de La Facture, Mme Catherine Tremblay, qui nous a contactés parce qu'il y a une personne qui n'est pas membre de Mémo Québec qui l'a contacté pour dénoncer cette pénalité-là. Et La Facture a voulu prendre en charge là, ce dossier-là.
Mais qu'est-ce qui fait que l'avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'a pas préséance, à ce sens que, bon, ça a été dit, mais les choses ne changent pas?
C'est un avis juridique. Oui, mais... Donc, oui, non, mais... ça n'a pas une obligation contraignante sur la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une loi là, qu'on conteste, qu'on dit qu'elle est discriminatoire. Donc, la Commission a sorti un avis, mais tant et autant que ce n'est comme qu'une opinion, si on peut dire. L'OPHQ également a fait des recommandations au gouvernement disant que ça devrait être aboli, abrogé, cet article de loi-là. Malheureusement, c'est malgré l'ensemble du milieu communautaire, l'OPHQ, la Commission des droits de la personne, ça demeure encore.
Est-ce que c'est... Disons, si le gouvernement faisait volte-face, est-ce que c'est quelque chose qui coûterait cher au gouvernement? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont prises dans cette situation-là, Sarah?
Il faut savoir que pour établir des chiffres précis, ça prendrait une job d'actuaire complètement, parce que là, on tombe quand même dans quelque chose de plus précis. Mais pour avoir fait plusieurs démarches politiques depuis mon arrivée à Mémo Québec, puis il y en a eu bien avant moi également, on a rencontré des partis d'opposition qui ont dit à quel point que c'était minime là, comme impact financier. Là. C'est pas des personnes pénalisées. Il y en a beaucoup, mais le 36% ne viderait pas nos coffres. Donc, il n'y aurait pas une pénalité grande financièrement.
Sarah, mis à part Québec solidaire, depuis 1997, tous les partis qui ont été dans l'opposition ont pris le pouvoir. Donc, les trois partis, si on prend la CAQ qui est l'ancienne ADQ, ont eu l'occasion de mettre en application des choses qu'ils ont probablement dénoncées.
Oui.
Puis ça bouge pas?
Non. Non, effectivement, malgré des rappels de notre part, parce qu'on les a tous rencontrés, quand la CAQ était, par exemple, pas encore élue, puis qu'elle se battait pour être élue, on les a rencontrés, ils se sont montrés intéressés. Depuis, on leur a fait un ou deux rappels et on n'a pas eu de retour. Ça a été la même chose avec les autres partis, malheureusement. Qu'est-ce qui fait que le côté politique ne veut pas s'investir à regarder qu'est-ce qui est possible de faire, à voir à quel point que l'ensemble du milieu communautaire, l'OPHQ, la Commission sont d'accord pour dire que cet article de loi-là est discriminatoire, devrait être abrogé? On n'a aucune idée de notre côté pourquoi que c'est si difficile à percer le mur politique. Présentement, on sait que les politiciens ne toucheront pas à ce dossier-là parce que le dossier s'en va au tribunal administratif du Québec.
Et est-ce que le tribunal administratif du Québec, lui, a droit de regard ou ce serait encore le genre de truc, un avis et qu'il va falloir aller dans un palier juridique supérieur?
En fait, nous, là, on a choisi d'accompagner un de nos membres qui veut porter plainte au tribunal. Donc, on a fait un partenariat avec un cabinet d'avocats de Montréal qui va prendre en charge ce dossier-là et qui va aller défendre l'inconstitutionnalité de cet article de loi-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un article de loi qui ne respectent pas la Constitution, si on peut dire, qui est quand même la loi suprême là, au Québec.
Puis on pourrait même peut-être penser à une action collective éventuellement, parce que ça touche beaucoup de monde.
C'est pas une porte fermée. Naturellement, pour l'instant, on regarde là, pour le tribunal. On met beaucoup d'espoir là-dessus.
Bon, ça fait juste 22, 23 ans bientôt, alors on a le temps d'être patient. Et là là. Sarah Limoges, merci beaucoup. Elle est organisatrice communautaire en
merci
défense des droits à Mémo Québec.
Merci, bonne journée.
La bottine souriante. Carl Marquis, bonjour.
Bonjour.
Carl, qui est président de First Steps Wellness Center, chapitre québécois basé à Sherbrooke. Faites-moi penser, Carl, à la fin, je vais vous parler des Jeux paralympiques de Tokyo, mais avant, je veux vraiment parler de ce projet que vous, Diane Roy, et une tierce personne avez mis de l'avant, qui n'est pas encore ouvert. Je pense pas que vous avez ouvert les portes, mais ça avance bon train. Parlez-moi du centre de... Moi, j'ai parlé de centre de réadaptation là, pour les personnes blessées médulaires. C'est peut-être pas le bon terme, réadaptation?
Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, on l'a appelé un centre, évidemment, et adapté. Pourquoi? Parce que c'est des blessés médulaires ou, en fait, des paraplégiques, des quadriplégiques qui viendront ici s'entraîner pour pouvoir améliorer leur motricité. En fait, c'est par la neuroplasticité là, qui permet bien du positif pour tous ces gens-là.
Bon, j'ai écouté une couple d'entrevues que vous avez données sur le sujet, autant à Sherbrooke qu'ici, dans le passé, et finalement, je me suis demandé la différence entre ce qui se fait lorsqu'on s'en va dans un centre de réadaptation après un accident, et pourquoi ce que vous proposez ne pourrait pas se faire, pas nécessairement à la première étape de réadaptation, parce qu'on a bien d'autres choses à apprendre, mais peut-être à retourner dans des centres de réadaptation et on pourrait peut-être transférer la technologie ou l'apprentissage.
Oui. Mais en fait, c'est très, très lourd. Hein? Moi, j'ai un contact avec plusieurs physiatres dans le domaine. Les physiatres, c'est les spécialistes là, qui s'occupent là, de réadapter, en fait, de réadapter quelqu'un suite à une blessure, soit une amputation, soit un traumatisme au niveau de la moelle épinière. Alors, et ils me disent, Carl, c'est incroyable comment c'est rendu fou. Le délai de traitement est beaucoup raccourci. Alors, nous, on vient comme un espèce de backup, un prolongement, une période de transition suite à après avoir passé dans ce centre de réadaptation-là. peu importe lequel, là, il y en a plusieurs à travers le Québec, ben nous, on ferait le suivi, on ferait la partie suivante, qui est vraiment, ça fait 20 ans que ça existe dans le monde, là, la neuroplasticité, là, travailler avec la neuroplasticité là, de la moelle épinière, et donc, c'est ça, les gens pourraient venir un traitement, un entraînement, par contre, très, très ardu, en fait, c'est un entraînement là, d'athlète olympique, par pratiquement, là. Et c'est, je pourrais dire, c'est entre 2 mois à 8 mois, dépendamment là, des améliorations de chacun. Alors, c'est très, très, très énergivore. Il faut que les gens se dédient carrément à l'amélioration de leur sort. Alors, okay. Oui, c'est ça.
Mais peux-tu m'expliquer la différence, ou peut-être que c'est un combiné des deux, mais j'ai compris que il y avait des appareils, mais j'ai aussi compris qu'il y avait des mouvements qui étaient initiés par, disons, un thérapeute, que ce soit on prend un bras ou on prend un pied. Donc, le genre de truc qui pourrait peut-être même se faire à la maison si la personne vient chez moi puis vient me tordre le pied positivement.
Mais c'est très difficile de faire ça parce qu'évidemment, il y a une économie d'échelle qui se fait. Là, hein, le kinésiothérapeute, pour ne pas le nommer, là, c'est pas un physio, c'est pas un masseur, c'est un kinésio qui est au centre, qui là, lui, évidemment, gère ses patients là, qui viennent durant cette journée-là dans notre centre et pourra faire un traitement d'une heure, deux heures avec chacun de ses bénéficiaires là, à ce moment-là. Et c'est du quotidien. Tous les jours, les gens viennent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour améliorer leur sort. C'est comme ça qu'il faut... La neuroplasticité, là, c'est assez simple, mais en même temps, c'est très ardu. C'est que, oui, comme vous disiez si bien...
Alors, tu peux me dire il n'y a pas de problème.
Il y a des mouvements qui se font. Hein, le kinésio, en fait, là, si je veux bouger mon pied gauche, je demande de bouger mon pied gauche et il ne bouge pas à cause que je suis paraplégique, par exemple. Alors, le kinésio va demander, bon, ben, dans ton cerveau, tu demandes de le bouger comment tu veux le déplacer, puis tout ça, puis là, il y a une répétition. Et là, à un moment donné, il y aura des charges. Alors, il y aura des. Évidemment, il y a de l'équipement pas pris. En fait, il n'y a pas 100% de la réadaptation qui se fait avec de l'équipement. Moi, je pourrais dire peut-être un 20-30% qui se fait avec de l'équipement. Le reste, c'est carrément du manuel.
Mais j'entends qu'une fois que la campagne de sociofinancement aura porté ses fruits, si quelqu'un veut profiter de cette... session ou de ce... il va falloir aller chez vous, là. Il va falloir aller à Sherbrooke et peut-être, si on est au travail, demander à notre patron. Donc, ça risque d'être compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué, en fait. Tu sais, quand on est dans une période de ça vient d'arriver, là, un blessé médulaire, l'accident vient d'arriver, puis tout ça, là, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'il est comme dans une période d'invalidité.
Il n'y a pas le choix,
Fait qu'il va prendre le temps que ça prend avant de retourner au boulot ou retourner dans sa situation habituelle. Tandis que quelqu'un qui, ça fait 10 ans qu'il est sur le marché de l'emploi, c'est pas évident, prendre un 6-7 mois. Pis, mais il peut le rentrer comme un entraînement, par contre. Il peut le rentrer comme un entraînement, comme s'il allait au gym à tous les semaines ou à tous les... C'est sûr que la fréquence, il pourra peut-être pas venir 3-4 fois par semaine, mais il va peut-être venir 2 fois. Fait que là, ça va être un peu plus long. Le résultat va se compter un peu plus longuement, mais ça va avoir des répercussions.
Est-ce que vous pensez ouvrir des franchises ou je vois trop loin?
Ben écoutez, on est une organisation à but non lucratif, là, fait que évidemment, oui, on pourrait, mais on veut vraiment dédier Sherbrooke, là, c'est une plaque tournante, là, et avec tous les centres hospitaliers, universitaires, etc. Puis c'est un peu centralisé, Québec, Montréal, on n'est pas loin de Boston.
Il y a Kinova, c'est vrai qu'il se passe quelque chose à Sherbrooke aussi.
Et en fait, on veut dans une deuxième phase, là, parce que évidemment, on est en sociofinancement communautaire actuellement pour un 50 000, mais il y a aussi le corpo, on va aller chercher un 200 pour pouvoir avoir notre 250 000 pour pouvoir ouvrir nos portes. Et notre deuxième phase serait peut-être aussi de greffer une espèce de building ou un appartement à côté pour que les gens qui viennent de Chibougamau, par exemple, ou des Laurentides puissent venir séjourner ici.
Le manoir Karl Marquis Diane Roy, là.
Pourquoi pas?
Ouais. OK, il me reste 2 minutes. Je suis curieux. Est-ce que Radio-Canada t'a appelé pour les Paralympiques de Tokyo? Est-ce qu'on peut déjà se réjouir à savoir qu'il va avoir une couverture que de l'allure ou t'as pas eu de nouvelles?
Ben non, j'ai tenté l'exercice de rejoindre les derniers contacts. Je sais que la personne qui s'occupait des JO, de les Jeux paralympiques en fait d'hiver, a pris sa retraite. Alors, en tout cas, si vous êtes capable de partager la bonne nouvelle, okay. C'est disponible.
Mais c'était pas Catherine qui faisait ça?
Ouais.
Puis elle est toute jeune, elle n'a pas pris sa retraite?
Non. Okay. Catherine était un membre de l'équipe.
Ah, OK. Alors, elle n'était pas... Si, okay, fait
je
ne
sais
elle
pas
qui...
à quel point bon. Elle est impliquée pour les JO d'été. Là.
Ben, on vous tient au courant, auditeur. Je pensais bien avoir un petit scoop par l'entremise de Carl, qui est souvent utilisé comme analyste pour différents sports. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura du basket en fauteuil roulant ou... si tu avais un 2 à miser, là?
Pourquoi pas?
Ce serait
dramatique que ce ne soit pas.
Oh, je suis d'accord, mais ils ont jusqu'au 20 mai pour s'organiser. Sinon, le Comité paralympique international dit qu'il n'y en aura pas. Alors, c'est à suivre, mais bon...
La game politique,
c'est
toujours.
C'est ça. Ça ressemble à ça. C'est ce que Dominique Tremblay et moi disions la semaine passée. Carl Marquis, merci beaucoup. C'est quoi? C'est GoFundMe, la campagne?
Oui. Parfait. Oui, GoFundMe.
Puis, allez sur First Steps... Wellness, donc FSWC. Carl, merci beaucoup. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Christiane également. Pour ceux qui sont avec nous à Canal M, ben on jase balado-diffusion tout de suite après. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine.